Chapitre 3. L'invention des sociétés de propriétaires. Nous venons d'étudier quelques-unes des caractéristiques générales des sociétés ternaires ou trifonctionnelles, en particulier dans le cadre des sociétés d'ordre européenne. Il s'agit maintenant d'analyser comment ces sociétés trifonctionnelles se sont progressivement transformées en sociétés de propriétaires au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, selon des rythmes et des modalités différentes suivant les pays. Dans la deuxième partie, nous examinerons le cas des sociétés ternaires extra-européennes, en particulier en Inde et en Chine, et la façon dont leur rencontre avec les puissances propriétaristes et coloniales européennes a affecté les conditions de la formation de l'État et de la transformation des structures trifonctionnelles anciennes, menant ainsi à des trajectoires spécifiques. Mais avant d'en arriver là, il nous faut pousser plus loin l'analyse des trajectoires européennes. Dans ce chapitre, je vais revenir de façon plus détaillée sur la révolution de 1789, qui marque une rupture emblématique entre la société d'ordre d'Ancien Régime et la société bourgeoise et propriétariste qui s'épanouit en France au XIXe siècle. En quelques années, les législateurs révolutionnaires tentèrent de redéfinir entièrement les relations de pouvoir et de propriété, et l'analyse de ces épisodes permet de mieux saisir l'ampleur de la tâche et des contradictions auxquelles ils se sont heurtés. Nous verrons également comment ces processus politico-juridiques complexes et incertains ont buté sur la question de l'inégalité et de la concentration de la propriété, si bien que la Révolution française a finalement conduit au développement d'une société propriétariste extrêmement inégalitaire entre 1800 et 1914, comme nous l'analyserons dans le chapitre suivant. La comparaison avec les autres trajectoires européennes, en particulier au Royaume-Uni et en Suède, nous permettra ensuite de nous interroger sur le rôle respectif des processus révolutionnaires et des tendances longues, liées notamment à la formation de l'État et à l'évolution des structures socio-économiques, dans la transformation des sociétés ternaires en sociétés de propriétaires et d'insister sur la multiplicité des trajectoires et bifurcations possibles. La grande démarcation de 1789 et l'invention de la propriété moderne. Commençons par examiner ce qui constitue sans doute le moment le plus décisif permettant de mieux comprendre la grande démarcation entre les sociétés trifonctionnelles et les sociétés de propriétaires qui leur ont succédé. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale française vota l'abolition des privilèges du clergé et de la noblesse. Toute la difficulté, dans les semaines, mois et années qui suivirent, fut de définir la liste exacte de ces privilèges, et par là même d'établir la frontière entre les droits qui devaient être purement et simplement abolis, sans aucune compensation, et ceux qui étaient au contraire considérés comme légitimes, et pouvaient être perpétués ou bien faire l'objet d'une compensation ou d'un rachat, quitte à les reformuler dans la langue politico-juridique nouvelle. La théorie du pouvoir et de la propriété, portée par les législateurs révolutionnaires, était en principe relativement claire. Il s'agissait de distinguer nettement la question des pouvoirs régaliens, sécurité, justice, violence légitime, sur lesquels l'État centralisé devait désormais avoir le monopole. Et la question du droit de propriété, qui devait devenir l'apanage de l'individu privé et qu'il fallait définir de façon pleine, entière et inviolable sous la protection de l'État, qui devait en faire sa mission première, voire unique. En pratique, les choses furent beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, tant les différents types de droits étaient inextricablement enchevêtrés dans le cadre des relations de pouvoir au niveau local, si bien qu'il fut extrêmement difficile de définir une norme de justice cohérente et acceptable par les différents acteurs, notamment concernant l'allocation des droits de propriété initiaux. On savait, ou plutôt on croyait savoir, comment procéder pour la suite, c'est-à-dire une fois cette allocation initiale fermement établie. Mais on eut bien du mal à décider lesquels des droits anciens méritaient d'être sédimentés en droits de propriété nouveaux et lesquels devaient être simplement supprimés. Des travaux récents, en particulier ceux de Raffe Blaufarb, ont montré qu'il était nécessaire pour bien comprendre ces débats de distinguer plusieurs périodes. Dans un premier temps, en 1789-1790, le comité de l'Assemblée nationale en charge de ces questions délicates adopta une approche dite historique. L'idée était de remonter aux origines du droit en question afin de déterminer sa légitimité et en particulier sa nature contractuelle, auquel cas il devait être maintenu, ou non contractuelle, auquel cas il devait être aboli. Par exemple, s'il s'agissait d'un droit lié à l'exercice d'un pouvoir seigneurial indu, de type féodal, ou bien une appropriation illégitime d'une parcelle de la puissance publique, alors il fallait considérer ce droit comme non contractuel, et il devait par conséquent être aboli sans compensation. L'exemple le plus évident était celui des privilèges fiscaux, le droit de la noblesse et du clergé de ne pas payer certains impôts, et du pouvoir juridictionnel. Le droit de rendre la justice sur un territoire déterminé, aussi appelé seigneurie publique, fut ainsi retiré au seigneur sans compensation et transféré à l'État centralisé. Cela aboutit dans l'immédiat à une désorganisation de l'appareil de justice de première instance, qui reposait pour une large part sur les cours seigneuriales. Mais l'idée d'un monopole étatique sur la justice s'imposa définitivement. La dîme ecclésiastique fut elle aussi abolie, et les biens de l'Église nationalisés, là encore sans compensation, ce qui provoqua de vifs débats compte tenu du démantèlement des services religieux, éducatifs et hospitaliers que certains craignaient, à l'image de l'abbé Sieyès qui s'opposa à ces décisions ainsi que nous l'avons évoqué dans le chapitre précédent. Mais les partisans de l'abolition de la dîme et de la nationalisation des biens cléricaux insistèrent sur le fait que la souveraineté publique ne pouvait se diviser et que l'on ne pouvait tolérer que l'Église bénéficie durablement d'une recette fiscale permanente garantie par la puissance publique et apparaisse ainsi comme un quasi-État. Pour faire bonne mesure, on inclut également les biens de la couronne dans les biens nationaux avec ceux de l'Église, et l'ensemble fut mis aux enchères. La philosophie générale était que l'État, un et indivisible, devait se financer par des contributions annuelles librement consenties par les représentants des citoyens, et que la propriété perpétuelle et sa mise en valeur devaient désormais être l'affaire des individus privés. La rupture conceptuelle avec l'ordre ancien est d'autant plus claire que les budgets de la monarchie avaient au contraire longtemps considéré les revenus issus du domaine royal comme les recettes ordinaires et les produits des taxes comme les recettes extraordinaires. Mais en dehors de ces quelques cas relativement clairs, privilèges fiscaux, seigneurie publique, dîmes ecclésiastiques, biens de l'Église, il fut bien difficile de se mettre d'accord sur les autres privilèges à supprimer sans compensation. En particulier, la plupart des droits seigneuriaux, c'est-à-dire les paiements en nature ou en argent dus par les paysans à la classe nobiliaire, furent en réalité maintenus, tout du moins dans un premier temps. Dans le cas paradigmatique d'un paysan exploitant une terre en échange d'un paiement au seigneur du lieu, le principe général était que ce droit devait, a priori, être considéré comme légitime. Cette relation avait en effet les apparences d'une relation contractuelle, ou tout du moins d'une relation légitime entre un propriétaire et un locataire, au sens où l'entendaient les législateurs révolutionnaires, et le paiement devait donc continuer de s'appliquer sous forme d'un loyer. Autrement dit, le seigneur pouvait continuer de percevoir des loyers sur ses terres, seigneurie privée, mais ne pouvait plus y rendre la justice, seigneurie publique. Toute l'opération législative consistait à décomposer les rapports seigneuriaux en ces deux composantes et à séparer ainsi le bon grain de l'ivraie, le propriétarisme nouveau et le féodalisme ancien. Corvée, banalité, loyer, du féodalisme au propriétarisme. Dès 1789-1790, une exception fut néanmoins prévue pour les corvées, c'est-à-dire le fait de devoir fournir au seigneur du lieu un certain nombre de journées de travail non rémunérées, par exemple un ou deux jours par semaine sur les terres du seigneur, ce qui était une situation classique ou parfois davantage, et les banalités, c'est-à-dire les monopoles seigneuriaux sur divers services locaux comme un moulin, un pont, une presse, un four, etc., souvent en lien avec les seigneuries juridictionnelles, qui, dans les deux cas, devaient en principe être abolies sans compensation. En particulier, les corvées trahissaient des origines trop nettement liées à l'ordre seigneurial ancien et au servage, système qui était réputé avoir disparu plusieurs siècles auparavant, mais dont les mots si ce n'est la réalité, était toujours bien présent dans les campagnes françaises. Les maintenir ouvertement et sans aucune limite sur leur ampleur aurait été interprété comme une trahison trop évidente de l'esprit de la Révolution et de l'abolition des privilèges adoptés lors de la nuit du 4 août. En pratique, cependant, les comités et les tribunaux chargés d'appliquer ces directives jugèrent dans de nombreux cas que l'on pouvait trouver des origines contractuelles aux corvées, qui, au fond, s'apparentaient à une forme de loyer, dont elles ne différaient souvent que par les mots davantage que par le montant exigé. Elles devaient dès lors être maintenues ou bien transformées explicitement en loyer, versées en argent ou en nature, une corvée d'une journée par semaine pouvant par exemple devenir un loyer équivalent à un cinquième ou un sixième du produit agricole. Ou encore, faire l'objet d'un rachat, ce qui pouvait apparaître à de nombreux législateurs comme une solution médiane. Une suppression pure et simple des corvées, sans rachat et sans compensation d'aucune sorte, effrayait une bonne partie des législateurs révolutionnaires, qui craignaient que cela aboutisse à une remise en cause des loyers eux-mêmes et de la propriété dans son ensemble. Cette possibilité théorique de rachat des corvées et des autres droits seigneuriaux était toutefois largement inaccessible pour la plupart des paysans pauvres, d'autant plus que d'après les décrets de l'Assemblée et de son comité, le rachat devait se faire au prix fort. La valeur des terres avait été fixée forfaitairement à l'équivalent de 20 années de loyer pour les paiements en argent et 25 années pour les paiements en nature, somme qui correspondait à la moyenne des prix fonciers et des rendements locatifs de l'époque, entre 4% et 5% par an, mais qui n'en était pas moins tout à fait inatteignable pour le plus grand nombre. Dans le cas d'une corvée particulièrement lourde, plusieurs jours par semaine de travail non rémunéré, le rachat pouvait aboutir à placer le paysan dans une situation de dette perpétuelle proche du servage et de l'esclavage. Dans les faits, les rachats de droits seigneuriaux ou de biens nationaux furent le fait de la petite minorité roturière ou noble disposant des liquidités nécessaires et la masse des paysans en était exclue. Pour ce qui concerne les banalités, on considéra également qu'elle devait dans certains cas être maintenue, en particulier dans les situations où les monopoles pouvaient se justifier par l'existence d'un service public local difficile à organiser autrement qu'au travers d'un monopole. Cela pouvait concerner par exemple le cas d'un moulin particulièrement coûteux à construire, et pour lequel la concurrence entre plusieurs moulins aurait été collectivement néfaste, ce qui justifiait le monopole reconnu à celui qui en avait organisé la construction, où en avait le contrôle, et qui était le plus souvent un ancien seigneur, à moins qu'il n'ait cédé ce droit à un nouveau venu. Il s'agissait évidemment de questions fort difficiles à évaluer en pratique, ce qui illustre de nouveau l'enchevêtrement inextricable de droits propriétaristes et de quasi-services publics étatiques, qui caractérisait la société trifonctionnelle, de la même façon que pour la dîme ecclésiastique, qui, selon ses défenseurs, était supposée financer écoles, dispensaires et greniers pour les pauvres. Le maintien des banalités fut moins systématique que celui des corvées, mais il n'en suscita pas moins de violentes oppositions de la part des paysans concernés. De façon plus générale, l'approche historique prônée en 1789-1790 butait sur une difficulté majeure. Comment pouvait-on établir l'origine contractuelle des droits en question? Si l'on acceptait de remonter suffisamment loin en arrière, plusieurs siècles auparavant, il était bien évident pour tout le monde que la violence pure et dure, notamment sous la forme de la conquête et du servage, avait joué un rôle clé dans la plupart des appropriations seigneuriales initiales. Si l'on poussait cette logique jusqu'au bout, l'idée même d'une origine entièrement contractuelle de la propriété était une pure fiction. Plus modestement, l'objectif des législateurs révolutionnaires, qui pour la plupart étaient des bourgeois propriétaires, ou tout du moins des personnes beaucoup moins démunies que la masse de la population de l'époque, était de trouver des compromis qu'ils jugeaient raisonnables, c'est-à-dire des compromis permettant de refonder la société sur une base stable, tout en évitant de remettre en cause l'ensemble des relations de propriété, opération périlleuse dont ils craignaient qu'elle mène tout droit au chaos généralisé et à la remise en cause de leurs propres droits de propriété. Les députés commencèrent donc par suivre en 1789-1790 une approche historique qui était en réalité très conservatrice et qui permettait surtout de ne rien changer en pratique à la plupart des droits seigneuriaux, dès lors que le poids des siècles leur avait donné les apparences de paisibles droits de propriété. La logique suivie était historique, non pas tant car elle aurait cherché à connaître les véritables origines historiques du droit en question, mais dans la mesure où l'on considérait implicitement qu'une relation de propriété, ou plus généralement une relation qui en avait toutes les apparences, établie depuis suffisamment longtemps, ne devrait plus être remise en cause. Cette approche était d'ailleurs souvent résumée par le fameux adage « nulle terre sans seigneur ». Autrement dit, en l'absence de preuves contraires incontestables, et en dehors de quelques cas limitativement répertoriés, on partait du principe que les paiements en nature ou en argent reçus par le seigneur du lieu avaient une origine contractuelle légitime et devaient donc continuer à s'appliquer, quitte à les reformuler dans la langue nouvelle. Dans certaines provinces, en particulier dans le sud de la France, la tradition juridique était cependant toute différente puisqu'elle était généralement résumée par le principe « nul seigneur sans titre ». Sans preuve écrite, la propriété ne pouvait être établie et aucun paiement ne se justifiait. Les directives de l'Assemblée furent donc très mal reçues dans les régions de tradition de droit écrit. En tout état de cause, la plupart des titres de propriété, quand ils existaient, étaient sujets à caution, puisqu'ils pouvaient avoir été établis par les seigneurs eux-mêmes ou bien par des structures juridictionnelles qu'ils contrôlaient. Dans l'incertitude, de nombreuses révoltes paysannes s'en prirent aux seigneurs et aux châteaux et commencèrent dès l'été 1789 à brûler les titres qui s'y trouvaient, ce qui ajouta encore à la confusion. La situation devint alors d'autant plus incontrôlable que les tensions extérieures s'aggravaient et contribuaient elles aussi à durcir le cours de la Révolution. En 1789-1791, l'Assemblée nationale, devenue constituante, avait adopté une nouvelle constitution pour le royaume, sous la forme d'une monarchie constitutionnelle et censitaire. Seules les personnes payant des impôts suffisamment élevés avaient le droit de vote, qui commença brièvement à s'appliquer. Puis le climat politique se tendit progressivement, en particulier après la fuite du roi à Varennes, dans l'est de la France, en juin 1791. Non sans raison, Louis XVI fut accusé de vouloir rejoindre les nobles exilés et de comploter avec les monarchies européennes pour venir étouffer militairement la Révolution. Alors que les menaces de guerre grandissaient, l'insurrection d'août 1792 aboutit à l'arrestation du roi, guillotiné 5 mois plus tard en janvier 1793, et à la mise en place en 1792-1795 d'une nouvelle assemblée, la Convention, chargée de rédiger une constitution républicaine fondée sur le suffrage universel. Constitution qui fut adoptée mais n'eut jamais le temps d'être appliquée. La victoire décisive de Valmy en septembre 1792 dans l'est du pays marqua alors le triomphe de l'idée républicaine et la défaite symbolique de l'ordre trifonctionnel. Bien que privés de leur chef naturel parti à l'étranger, les armées françaises triomphèrent face aux armées monarchiques coalisées menées par toutes les noblesses d'Europe. C'était bien la preuve vivante que le peuple en armes pouvait se passer de la vieille classe guerrière et nobiliaire. Goethe, qui depuis les collines assistait à la bataille, ne s'y est pas trompé. « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l'histoire du monde. » Dans le même temps, l'application de la loi du 4 août 1789 sur l'abolition des privilèges prit une tournure plus radicale. À partir de 1792, on commença à inverser le sens de la preuve et à demander de plus en plus souvent aux seigneurs de démontrer l'origine contractuelle de leurs droits. Le décret de la Convention de juillet 1793 passa à la vitesse supérieure en adoptant une approche dite « linguistique ». Tous les droits seigneuriaux et rentes foncières devaient être abolis immédiatement, sans compensation, dès lors qu'une terminologie se rattachant directement à l'ordre féodal ancien était utilisée pour les désigner. Cela concernait non seulement les corvées et les banalités, pour lesquelles plus aucune exception ne serait tolérée, mais également les « sens », les « lots » et de multiples autres obligations de ce type. Le « sens » était une forme de rente foncière due à un seigneur et était anciennement lié à la reconnaissance d'un lien de vassalité, c'est-à-dire de dépendance politique et militaire. Le cas des Lo est sans doute le plus intéressant. D'une part parce qu'ils étaient extrêmement répandus, à tel point qu'ils étaient devenus dans de nombreuses provinces le mode de rémunération principal du propriétaire foncier, et d'autre part car il illustre parfaitement l'enchevêtrement extrême des anciens droits régaliens, illégitimes aux yeux des révolutionnaires, et des droits modernes de propriété réputés légitimes.